Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Bataille entre le RPR et les Giscardiens, la rupture de l'Union de la gauche, la victoire de la majorité en 1978, les premières élections européennes, les brouilles entre Giscard et Chirac, l'appel de Cochin. Voici pour l'époque. Les écrivains, Sully Prudhomme, La Fontaine, Lamartine, Éluard, les Goncourt, Jarry, Chateaubriand, Molière, Saint-Simon, Rabelais. Alors, Alphonse Daudet aussi, tiens. Et qui écrit quoi ? On devrait lire le volume dont il va être question, selon son auteur, comme une devinette, comme un jeu de société. Oui, qui écrit quoi ? Il s'agit de pastiches. Et les pastiches de pastiches. Et les parodies de pastiches. Et les pastiches de parodies. Bref, quand on aime bien, il ne faut pas trop respecter. Jean-Michel Royer avait écrit l'histoire d'un septennat, celui de VGE, une époque où l'on se battait dans le midi pour la baguette à un franc. Voici de la littérature et de l'histoire récente, enfin récente pour l'émission qui fut diffusée, elle, pour la première fois sur France Culture le 4 décembre 1980.
Bonjour. Jean-Michel Royer, je me demande si ensemble, tous les deux, nous ne sommes pas en train de commettre quelque chose de scandaleux. Je vous invite sur les ondes nationales de France Culture. France Culture, vous entendez, pour un de vos ouvrages. J'ai ouvert votre livre, un peu tard peut-être, si j'avais su, je ne vous aurais pas invité. J'ai ouvert votre livre et je m'aperçois que toute une partie de ce livre est écrite par M. Giscard d'Estaing et que d'autres textes sont écrits par Chateaubriand, Rabelais, Hugo, La Fontaine, Saint-Simon et bien d'autres.
D'ailleurs, alors c'est même Valéry Giscard d'Estaing qui a écrit les textes de Chateaubriand, de Rabelais et bien d'autres. Bah, il se passe tout simplement que c'est un livre de pastiche.
Ah voilà, je crois que j'avais peut-être pas compris.
Et que, comme votre émission s'intitule Métamorphose des civilisations, là c'est la métamorphose de la France culture, enfin, si je puis dire, ou de la culture française, ou du Lagarde et Michard. C'est une sorte de recueil de textes français qui raconte le septennat de Valéry Giscard d'Estaing.
Ah voilà, donc
mais si vous voulez, je peux repartir maintenant que j'ai expliqué. Écoutez, ça, si vous trouvez que c'est scandaleux.
Vous êtes là et M. Giscard d'Estaing n'est pas à côté. Alors donc, nous allons continuer avec vous, Jean-Michel Royer.
Bon, bah d'accord, je reste encore un petit moment.
Vous restez encore un petit moment. Donc cet ouvrage qui s'appelle À la manière d'un, avec un U majuscule.
Bah, un, c'est l'unique, le seul, celui qui, sans qui tout serait dépeuplé, enfin c'est le président de la République lui-même. D'ailleurs, on peut pas s'y tromper quand on raconte le livre comme ça, en disant le titre évidemment. On voit pas la couverture, mais la couverture, elle, ne laisse pas d'ambiguïté, puisque il y a dessous un monsieur en cuirasse et en perruque poudrée, qui a une grande plume à la main, et un manteau d'hermine, et des fleurs de lys partout. Ça pourrait être Louis XV, parce que c'est le portrait de Louis XV que tout le monde connaît par Vanloo, mais... Bah, il y a le visage de Valéry Giscard d'Estaing, et c'est pas par hasard. Vous savez que une tradition controversée prétend que le président de la République descend de Louis XV. Et en tous les cas, c'est un adepte de Louis XV. Il a organisé des grandes expositions Louis XV. Il a installé, en arrivant à l'Élysée, le portrait de Louis XV. D'ailleurs, il le raconte à Madame Bovary au cours de son premier dîner. Vous savez, quand les Bovary ont été soupés à l'Élysée. Donc, c'est à la manière d'un, c'est à la manière de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis un sous-titre, le septennat. C'est l'histoire de son septennat. C'est les 7 ans qu'il a passé à l'Élysée. 7 ans moins quelques mois, bien sûr.
C'est ça. Alors donc, nous assistons aux grands événements, c'est-à-dire les combats qu'il peut y avoir avec M. Jacques Chirac, les luttes politiques contre la gauche en 78.
Ah non, d'abord, ils s'entendent bien, rappelez-vous. Il y a quand même deux ans de bon.
Oui. Oui.
Puis après, il se brouille, oui, à partir de 76. Et puis après, il choisit M. Barre. C'est expliqué, tout ça. C'est Saint-Exupéry qui explique comment le choix arrive. C'est le petit prince qui choisit. Enfin, le petit prince Poniatowski, vous savez, qui choisit M. Barre. Le babard, enfin, le gros babard. Et puis, bon, après, il y a la grande crise des municipales, la bataille entre le RPR et les Giscardiens autour des municipales de Paris, et puis des municipales en général, et notamment de celles de Paris. Et puis après, il y a la rupture de l'Union de la Gauche, tous ces drames sanglants entre Georges Marchais, enfin les socialistes et les communistes, et puis la victoire de la majorité aux législatives de 78, et puis les élections européennes. Et puis un certain nombre sur la fin, une petite détérioration, un certain nombre de scandales. Bon, je raconte aussi, mais enfin non, c'est pas moi qui le raconte, hein, c'est Maupassant là, tenez, par exemple, c'est Molière, enfin, l'histoire des bijoux, ça peut être Ubu aussi, parce qu'il y a un personnage nommé Bocassa, vous savez, qui est... C'est un peu Uburoi, non? Donc c'est automatiquement Alfred Jarry qui a écrit tous ces chapitres. Ils sont très irrespectueux, vous savez, mais moi je n'y suis absolument pour rien. Enfin, peut-être que je pousse un peu la plume.
Alors, vous êtes sûrement complètement irresponsable, oui.
Je suis totalement irresponsable.
Il me semble, vous nous donnez donc, après chaque chapitre, vous nous donnez les références. Vous dites ici, par exemple, ça vient du Malade imaginaire, ici ça vient de Saint-Simon, ça vient de Rabelais.
Bah, la plupart des gens, normalement, devraient s'en douter au départ, mais comme je redoute qu'il y ait maintenant quand même un certain nombre de gens qui ne connaissent pas bien les classiques et qui aient fait des humanités un peu déshumanisées ou déculturées, ou je ne sais quoi, j'explique après, c'est peut-être pas inutile. Mais enfin, normalement, on devrait lire ce livre comme une devinette. Enfin, en famille, on prend le bouquin à Noël, j'espère que beaucoup de gens, enfin, toute la France, il n'y a aucun doute, va mettre ce livre dans les cadeaux du petit ou des plus grands, d'ailleurs, jusqu'à 99 ans. On peut le prendre comme un jeu de société, c'est-à-dire commencer à lire un texte de qui est-ce, enfin, sur ces cahiers d'écolier, j'écris mon nom, bien sûr, sur le mystère de le vertige à page blanche, sur, j'écris mon nom. Liberté, Valéry Giscard d'Estaing. Bon, alors de qui est-ce? Bon, c'est Déloire, là tout le monde le sait.
Tout le monde savait, oui.
Mais
et celui-ci,
il y en a
Jean-Michel
d'autres
Royer,
plus...
on peut.
Mais j'ai oublié
demander à nos auditeurs la devinette, alors ne disons pas de qui il est.
Attendez, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ah, bah c'est un petit peu difficile. Et c'est parce que Bargruel naquit le jour le plus sec de cette sèche année. Ça, c'est l'année 1976, l'année de la grande sécheresse. Oui. Et cette année-là, précisément, M. Giscard d'Estaing dit grand destin. En son âge de 484 ans, engendra son fils Bargruel, de sa fille Rivoline, fille du roi des Énarques en Utopie, etc. Et parce que Bargruel naquit le jour le plus sec de cette année très sèche, son père lui donna ce nom-là. Bar en lanternois veut dire inflexible et gruel en langue arabique signifie altéré. Grand destin voulait indiquer par là que son fils serait tout au long de sa vie inflexible comme la barre de fer et qu'il aurait l'âme aussi sèche que l'était la terre à l'heure de sa nativité. Il montrait ainsi qu'il avait le don de double vue, etc. Puis on voit sortir du ventre de la mère de Bargruel, la géante Rivoline. On voit sortir 68 inspecteurs des finances, 1014 12 percepteurs, 14 poids lourds chargés de déclaration d'impôts, 1635 ordinateurs fiscaux montés sur chenillettes, etc. Et 2 143 007 chômeurs hurlant des slogans et brandissant des pancartes, etc. Tout ça, c'est pas dans Rabelais, mais enfin, si on reconnaît pas Rabelais, bon, je...
Ah, vous avez donné la clé quand même.
Je serais bien triste quand même.
Vous êtes méchant, je crois, pour les auditeurs de France Culture. Vous aviez l'impression qu'il n'aurait pas deviné.
Si, ça... Non, quand je raconte les aventures de Jacques Chirac et l'appel de Cochin, en reprenant la guerre Picrocolline, qui devient la guerre Chiracolline, avec Dame Marie-France de Poitiers, vous savez, Marie-France Garraud, qui devient une Amazone particulièrement dynamique. Je pense aussi que tout le monde reconnaît la guerre Picrocolline. Enfin, c'est... Bon, il y a des textes qui sont plus difficiles. Bon, quand on... Moi, j'aime beaucoup Sully Prudhomme, par exemple. Je suis pas sûr que tous les enfants de France connaissent par cœur Sully Prudhomme. Enfin, mais les auditeurs de France Culture, eux, le connaissent, donc c'est essentiel.
Bien sûr. Jean-Michel Royer, le pastiche était un exercice qui était assez fréquent à une époque. Il y a même les fameux rebouts Muller, d'ailleurs, que vous avez pillés.
J'ai volé leur titre, purement et simplement. simplement à Rebout et Muller. D'ailleurs, moi, j'avais connu Paul Rebout, qui est mort il n'y a pas si longtemps, dans les années 50. C'est un vieux monsieur merveilleux. Bon, le pastiche, dans les années 1900, ils ont commencé à publier leur bouquin 1908, quelque chose comme ça, et ça s'est étalé sur 50 ans. Enfin, le dernier recueil de Paul Rebout, c'est 1953. Quelque chose comme ça. Et ils ont repris et republié des tas de séries et c'était superbe. Tout le monde, dans tous les lycées de France, on apprenait les classiques parce que le pastiche est une merveilleuse technique de pédagogie. Enfin, il y a beaucoup de profs qui donnent des pastiches à étudier. Chateaubriand, vu par Rebout et Muller avec les grands vols d'Araucaria l'Araucaria n'étant évidemment pas un oiseau mais une plante, dans le ciel de la jeune Amérique, inspiré d'Atala, s'appelle Troulala. Troulala, c'est de Loti. Enfin bon, il y a d'admirables pastiches de Rebout, et c'était pas par hasard qu'on les étudiait. Bon, mais ça commençait beaucoup plus haut. Rabelais, dont on parlait. Rabelais, quand on regarde dans le détail, c'est bourré de pastiches. Enfin, d'ailleurs, on le sait, tous les voyages de Panurge sur la fin, c'est quoi? C'est un pastiche de l'Odyssée, enfin, ou de l'Iliade. C'est la parodie est une des grandes traditions de la littérature latine. Enfin, le 17e, c'est bourré de Virgile travesti, etc. Le 18e aussi. Victor Hugo est un très grand pasticheur. Il se pastiche aussi lui-même, d'ailleurs. Je crois que tous les écrivains sont pasticheurs.
À ce titre-là,
se répète, mais enfin, c'était un pasticheur conscient aussi. Alors j'ai essayé de reprendre cette tradition.
C'est ça, mais il n'y a pas que du pastiche, Jean-Michel Royer, dans votre livre. Il y a en même temps de la retouche. Et là, vous jouez subtilement sur les deux. Parfois, vous faites carrément un pastiche. C'est-à-dire que vous refondez le texte en lui faisant dire ce que vous voulez dire et en forçant sur les effets.
Oui, parce que moi, j'ai une histoire à raconter qui est l'histoire du septennat. J'ai une histoire politique que tout le monde connaît. Enfin, on l'a évoqué, on a vu tout ça à la télévision. Bon, donc, au fond, moi, j'ai repris un peu une technique qui est, j'ai repris sans le talent admirable qu'il avait, le génie, mais j'ai repris la même technique, c'est celle de Proust dans un livre qui s'appelle l'affaire Lemoine, et qui raconte d'ailleurs une affaire de bijoux lui aussi. C'est très amusant à relire en ce moment, je vous le signale. Je viens de le relire, si je l'avais relu à temps pour faire ce bouquin, j'en aurais tiré quelques petites vacheries supplémentaires. Mais lui, il raconte une histoire cohérente, qui est une histoire de vol de diamants, avec chaque chapitre écrit par un auteur différent. Bah, c'est la même technique que j'ai repris. Lui, il a pastiché surtout admirablement Saint-Simon. Je crois que les plus beaux Saint-Simon qui est jamais paru, en dehors des miens, c'était ceux de Proust.
C'est Proust et Royer.
Proust et Royer. Et puis il y a eu aussi André Ribaud dans Le Canard enchaîné, enfin, qui du temps du règne du général de Gaulle, ont tout de même.
Il y a eu de beaux Saint-Simon aussi.
Il y a eu des textes superbes.
Enfin. Alors vous faites parfois de la retouche, c'est-à-dire que vous changez juste un petit mot, sans nous le dire. Ou parfois dans les notes, vous avez la gentillesse de nous le dire. Vous laissez le texte pratiquement intégrale, puis hop, de tout petites choses.
Oui, donc le problème, c'est que ça doit rappeler quelque chose quand même au lecteur. Bon, j'ai refait des fables de La Fontaine qui ne sont pas très très loin. Bon, l'histoire du bon choix, vous savez, vous rappelez le discours du général de Gaulle, de M. Giscard d'Estaing, oui, c'est amusant, à Verdun sur le Doubs. C'est la fable que vous connaissez par cœur, bien entendu, du chat et du renard. Enfin, n'ayez qu'un choix, mais qu'il soit bon. Tout le monde se rappelle. Bon, je ne sais pas si le président de la République y a pensé à ce moment-là. À mon avis, c'est Michel Poniatowski qui lui a suggéré. Bon, j'ai refait cette fable. On n'est pas très très loin de La Fontaine, et la morale est. Je suis très proche, c'est un bon récit de ce qui se passe là-bas. Où il y en a une, par exemple, j'ai fait un Sully Prudhomme à propos du prix de la baguette. Vous vous rappelez, il y avait il y a 2 ou 3 ans, mais enfin, c'est toujours extrêmement actuel, puisque vous savez que dans le midi de la France, on se bat pour la baguette à 1 franc, enfin. Et on va voir, tiens, bon, on va faire une devinette à ceux qui nous écoutent. Le boulanger m'a dit, la baguette est trop chère, seul un prix conseillé l'empêchera de monter. Le monori m'a dit, le mitron exagère, je veux un prix plafond où ça va augmenter. Le gros bar m'a dit, dressant sa tête altière, vive la concurrence et qu'augmente le pain. Mais faudrait mettre un frein, sinon la France entière menacera demain de nous fiche au pétrin. Prix plancher, prix plafond, nous autres l'on s'en fiche. On voudrait simplement bouffer des sandwichs sans que le boulanger d'un nouveau tournemain, toujours, toujours plus haut et toujours en goguette, fasse grimper encore le prix de la baguette, aujourd'hui plus qu'hier, et bien moins que demain. Bon, tout le monde connaît le final qu'on grave sur des médailles que les amoureux s'offrent les uns aux autres, et qui est, je crois, de Rosemonde Gérard, d'un poème dont je connais pas bien le début, je dois l'avouer, mais le reste, c'est un pastiche de Sully Prudhomme. Et ce pastiche de Sully Prudhomme, je l'ai repris à un écrivain qui était assez à la mode dans l'époque 1900, qui s'appelle Guy de la Fouchardière, qui avait lui-même pastiché Sully Prudhomme à propos de la hausse des prix, ce qui prouve d'ailleurs que la hausse des prix, elle n'est pas absolument d'aujourd'hui. Et c'était, bon, il évoquait tout ce qui grimpait. C'est un texte qui avait paru dans l'œuvre en 1918 et que j'ai retrouvé dans la merveilleuse anthologie du pastiche de François Caradec. Enfin, en voyant ça, je me suis dit, ça colle à notre époque. Moi, j'ai changé. Bon, c'est moi qui ai introduit la baguette dans cette histoire-là, l'histoire du prix du pain, puisqu'elle est permanente. Mais j'ai pas eu vraiment grand-chose à changer. Ça collait.
Dans ce genre d'exercice, Jean-Michel Royer, c'est difficile d'être drôle sans être méchant. Et j'ai l'impression que personne n'en ressort indemne. Hein. Vous êtes dur avec tout le monde.
C'est-à-dire que c'est l'histoire du président de la République pendant les 7 années qui passent. Il s'installe à l'Élysée. J'évoque son goût pour une certaine étiquette qu'il change. Un certain snobisme peut-être qu'il y a en lui, la manière dont il se rattache à des ancêtres, à l'amiral Destin, etc. À Louis XV, bien entendu, sa fascination pour Louis XV. Le portraiture, et ça c'est les Goncourt qui le font à ma place. Il y a un admirable portrait de Louis XV dans Madame de Pompadour, qui est un livre d'Edmond de Goncourt qu'on ne lit pas assez, qui est superbement écrit. Et je vous assure que ça colle très très bien à une certaine idée que j'ai, peut-être un peu méchante en effet, de Valéry Giscard d'Estaing au début de son...
Et votre certaine idée des méchantes, vous l'avez aussi pour Barre, pour Chirac, vous n'êtes pas tendre, pour tout le monde. Il faut bien dire que vous êtes équitable dans ce livre.
Je tire son portrait surtout au président de la République, puisqu'il est le héros de mon livre, et le titre l'indique, et la couverture l'indique. Mais ses deux premiers ministres successifs sont fort maltraités l'un et l'autre, ce qui n'exclut pas la sympathie profonde d'ailleurs. Je ne suis pas ici pour dire mes sentiments profonds sur ces gens-là, mais pour plaider pour une méchanceté, pour une agressivité qu'on a malheureusement beaucoup trop oubliée ou qui s'est réfugiée seulement dans des gazettes satiriques. Là, c'est un livre satirique, je fais du Canard enchaîné ou du Charlie Hebdo ou du Coluche, si vous voulez. Bon, je le fais quand même avec des armes, je crois, assez nobles. Et je les exerce aussi sur des gens que j'aime profondément, comme Michel Debray ou comme Michel Jobert, et d'une certaine façon aussi comme François Mitterrand, qui est un de mes très très bons amis, mais qui est pas admirablement très non plus, puisqu'il joue le rôle plutôt, c'est la duchesse Sanseverina dans la Chartreuse de Parme.
Mais c'est pas très aimable.
Qui joue son rôle. Et plus loin, c'est Lamartine. Enfin, Mitterrand, Lamartine, ça saute d'ailleurs aux yeux. Et c'est lui qui m'avait indiqué cette manière
candidat à la présidence de la République, c'est pas très aimable. Mais il y a aussi un de nos collègues qui s'appelle, je crois, Jacques Chancel, qui a quand même une certaine réputation, qui n'est pas traité de manière très aimable.
Si, non, mais il est intervieweur, là. C'est lui, il interviewe
une certaine flagornerie quand même. Ça vous a pas frappé.
C'est vous qui avez vraiment l'esprit très très mal.
Probablement.
Très mal tourné.
Vous l'avez très bien tourné.
Moi, absolument. Tout va bien. En tout cas, la particularité de ce texte, c'est que toutes les réponses, qui d'ailleurs c'est une interview très très logique, où le président de la République, interviewé par Chancel pendant la dernière campagne présidentielle, vous rappelez.
Ne dites pas qui sont les réponses. On va laisser une petite devinette. Je vais en lire deux ou trois simplement. Jacques Chancel. Monsieur le Président, tiendrez-vous vos promesses électorales? Valéry Giscard d'Estaing. Nous promettons selon nos espérances et nous tenons selon nos craintes. Chancel. Vous venez de battre Monsieur Mitterrand qui portait les espoirs de près de la moitié des Français. N'est-ce pas là, malgré tout, une grande espérance blessée? Giscard. Il y a souvent plus d'orgueil que de bonté à plaindre les malheurs de nos ennemis. C'est pour leur faire sentir que nous sommes au-dessus d'eux que nous leur donnons des marques de compassion. C'est une belle réponse.
Oui, mais ça colle très bien. C'est ce qu'aurait pu dire Valéry Giscard d'Estaing s'il avait eu le sens de la concision autant que La Rochefoucauld.
C'est ça. Et alors là, c'est du La Rochefoucauld intégral.
Et tout
c'est
le texte, il y a quatre...
deux petites retouches comme ça que vous faites avec un petit clin d'œil.
C'est une spécialité de Rebou et Muller avant moi, enfin, puisqu'il retouchait très souvent, comme vous le savez, les sentences de La Rochefoucauld pour montrer qu'on pouvait les prendre par un bout ou par l'autre. Enfin, il n'y a pas de mariage heureux, il n'y en a que de... etc. Enfin, bon... Je me souviens plus, j'ai déjà oublié, mais tout le monde se rappelle ça. Il n'y a pas de bon mariage, il n'y en a que deux.
C'est bon. Là, nous voyons par exemple des réponses du président de la République. Nous avons tous assez de force pour supporter le malheur des autres. Ou bien,
La Chancel l'avait interrogé sur les inégalités en France. Enfin, c'est une réponse qui s'impose.
Ou bien notre mérite nous attire l'estime des honnêtes gens et notre étoile, celle du public.
Oui, c'est bien vrai en plus.
Oui, vous croyez que c'est vrai, sûrement. Oui. Ou bien, on est souvent ferme par faiblesse et audacieux par timidité.
On ne peut pas dire le contraire.
Jean-Michel Royon, on sent à travers ce livre qui est impertinent.
Excusez-moi.
Impertinent à la fois à l'endroit de ceux qui président à nos destins et impertinent aussi à l'égard des écrivains français. Mais on sent quand même, je ne sais pas si ce que je vais dire concerne les hommes politiques, mais en tout cas ça concerne sûrement les écrivains, on sent que malgré votre impertinence, vous les aimez beaucoup et que c'est un peu pour pouvoir mieux les avoir près de vous, pour pouvoir mieux les caresser que vous retouchez ces textes. C'est vrai ?
C'est les hommes politiques, je ne suis pas sûr de les aimer beaucoup, mais les textes...
Non, je parlais des textes.
Les textes, oui, je suis sûr de... Enfin, j'ai avec eux un commerce qui date de pratiquement 9 mois avant ma naissance. Enfin, puisque mon père et ma mère étaient instituteurs, je suis né dans une école, j'ai été conçu dans une école et j'ai passé ma vie jusqu'à... à l'école primaire, la maternelle d'abord, puis après à l'école primaire, puis après au lycée, puis après en faculté. J'ai quand même passé 24 ou 25 ans de ma vie, pas toujours avec les classiques, parce que j'ai pas fait d'études littéraires après, mais ils ont toujours été près de moi. Enfin, y a des textes que j'ai repris, là, par exemple, quand Valéry Giscard d'Estaing fait de l'écologie, bon, c'est le sous-préfet Auchan. Le sous-préfet Auchan, bon, j'ai presque appris à lire dans ce texte-là, je peux vous le citer par cœur. Surtout, ne me demandez pas de le faire, parce que j'aurai le trac. Mais... c'est vrai que quand je relis le sous-préfet Auchan, et là je l'ai relu pour raconter une histoire politique, pour faire sourire, je l'ai adapté de façon qui n'est pas méchante pour Giscard, qui termine en... Vous savez, le sous-préfet Auchan veut faire son discours, et puis il voit une petite source, et puis il termine en mâchant des violettes, il écrit, au lieu de faire son discours, il écrit des vers en mâchonnant des violettes. Mon personnage, lui, mâchonne des anémones, enfin, ou des jacinthes, en faisant de l'écologie, au lieu de faire son pinsum qui est de préparer un discours qui fait à la télévision sur les plus-values réalisées. Ça l'amuse beaucoup plus. Vous savez que M. Giscard d'Estaing écrit des vers à ces jours. Enfin, j'ai lu ça dans une de ses biographies un peu gentilles qui a été publiée. Bah, quand je relis, moi, pour faire ce texte, le sous-préfet Auchan, c'est la voix de ma mère que j'entends. Ma mère me lisait ce texte quand j'étais enfant. Pour m'endormir, ça ne m'endormait pas tellement je trouvais que c'était beau. Et j'ai raconté un des dîners en ville de Valéry Giscard d'Estaing aussi, qui se passe. Il va dîner chez un ami à lui, vous savez, un Néoff-le-Château. Enfin, tout, il est invité à dîner, puis il tombe sur deux vieux ayatollahs, là, tout à fait étranges, qui ont d'ailleurs des mœurs tout à fait bizarres. Enfin, c'est l'ayatollah Khomeini et M. Banissadr. Vous savez, c'est ces gens qui fusillent les homosexuels en Iran, alors je leur ai donné des mœurs tout à fait spéciales. Alors ça étonne beaucoup M. Giscard d'Estaing et Mme Anémone Giscard d'Estaing qui viennent dîner là, comme ils allaient dîner chez des gens. Enfin, ils n'étaient pas bien au courant que c'était... c'est pour ça d'ailleurs que depuis, il n'y a plus de... C'est pour ça qu'il n'y a plus de dîner en ville, parce que ça s'est très mal passé, etc. On lui a sorti du caviar pourri, ils ont été obligés de le manger, c'était vraiment dégueulasse. Puis on leur a expliqué... Bah, c'est un texte d'Alphonse Daudet que jadis tout le monde connaissait, c'est les vieux. Enfin, quand Alphonse Daudet va dîner chez des vieilles gens qui sont les grands-parents d'un de ses amis parisiens, et puis ça se détraque, on leur donne des cerises à l'eau de vie qui sont pas sucrées, mamettes, etc. Ces deux vieux, c'est vraiment un des plus beaux textes pour moi de la langue française. Bon, je l'ai un petit peu bousculé, je l'ai même beaucoup bousculé. Parfois, c'est un peu pénible quand on adore les textes de les utiliser de leur faire le coup du Bernard l'ermite, vous savez, qui s'installe dans la coquille vide et qui l'a fait.
Vous le faites allègrement quand même. Mais là, vous
je le fais avec plaisir.
Remords, mais on a l'impression que vous le faites joyeusement.
Oui, non, parce que en même temps, il faut pas, quand on aime bien, il faut pas respecter trop les choses. En tout cas, il faut leur rendre la vie. Ce que j'essaie de faire là, c'est de, au fond, de dire aux Français, de défendre le patrimoine. À mon avis, je vais pas employer des grands mots. C'est pas mon style, mais le patrimoine de la France, c'est une certaine littérature qu'on a commencé à oublier, qu'on aurait dû utiliser beaucoup plus dans l'enseignement. Et quand on veut lui faire raconter une histoire politique comme moi, en souriant, on s'aperçoit que si on a des leçons à apprendre quelque part des leçons de drôlerie, des leçons de violence, des leçons d'intelligence, de cocasserie, de véhémence, de malice, de tout ce que vous voudrez, bah, il n'est pas inutile de relire La Fontaine, de relire Voltaire, de relire Saint-Simon, de relire Corneille, de relire tous les autres.
Dans le fond, si je comprends bien, votre appel du 4 décembre, qui n'est pas fait à Cochin, mais qui est fait ici, c'est relisez les classiques.
Relisez les classiques, reprenez tout simplement. Tenez, vous avez 30 ans, 40 ans, reprenez vos vieux manuels scolaires, vos vieux livres, et vous verrez, toute votre enfance est encore dedans. C'est vous que vous y retrouverez, et en même temps, vous les lirez complètement autrement. Mais surtout, lisez mon livre à moi, parce que c'est quand même celui-là qui compte. C'est le Lagarde et Michard de l'an 1980. C'est l'histoire d'un septennat, c'est le meilleur livre de l'année, quoi. Il n'y a aucune espèce de doute, et ce sera sans doute le meilleur livre du siècle.
Alors, puisque je suis gentil avec vous, je vais quand même dire qu'il est édité chez Stock, Jean-Michel Royer, à la manière d'un, le septennat. Voilà, en tout cas, un livre certainement qui fera passer des heures agréables.
Merci.
Cette émission d'Olivier Germain-Thomas a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 décembre 1980.